RCF. Ça va mieux en le disant, les chasseurs de positif. Vincent Melotti.
Eh bien bonjour à tous et à toutes. À l'affiche aujourd'hui, la vie étudiante pas toujours souriante, rencontrer, écouter et accompagner dans les moments de détresse. Eh bien c'est la mission que s'est fixée Apsitude, une association lancée à Lyon en 2010. Comment fonctionne-t-elle? On ira consulter les deux fondatrices, psychologues Fanny Sauvade et Laurentine Véron. À suivre aussi la folle journée de Nantes, le grand rendez-vous de la musique classique redémarre demain. Un festival qui s'est ouvert aussi à des publics pas forcément mélomanes. Et puis dans ces classes, suite et fin de notre dossier sur les rythmes scolaires, on ira dans l'Ain pour voir quelles solutions ont été mise en place pour le bien-être des élèves.
Ça va mieux en le disant, Vincent Melotti.
J'ai eu les allocs, donc ça m'a un peu permis de souffler en début de mois, et là c'est vrai que ça commence à être un peu long, quoi. Donc je commence à être un peu à court.
Et oui, pas facile la vie d'étudiant. Certains d'entre vous en gardent peut-être un souvenir nostalgique entre fête et bohème, mais aujourd'hui la réalité est moins heureuse. D'après une étude récente menée par la mutuelle Smerep, 66% des étudiants sondés se sentent régulièrement stressés, en manque de sommeil, 1 sur 2 se sent en perte de confiance, 49% disent connaître des périodes de déprime, et pire, 15% ont eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Alors comment réagir contre ce mal-être? Eh bien c'est le rôle que s'est fixé Apsitude, une association lancée à Lyon en 2010. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, on va le voir tout de suite avec ses fondatrices, qu'on va donc prendre en consultation. Fanny Sauvade et Laurentine Véron, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, Apsitude, voilà, je prononce bien. Alors, peut-être un mot d'explication sur le nom de votre association. On peut peut-être commencer par vous, Laurentine.
Oui, Apsitude, c'est simple. C'est le A pour association, psy pour psychologue et étude pour étude,
voilà,
ou étudiant.
Voilà, pour le mot compte le plus long, maintenant, vous savez, vous pouvez le caser. Comment est-ce que vous avez été amenée à créer votre association, Fanny, en 2010?
Alors, l'idée de cette association a germé quand nous-mêmes étions déjà étudiantes. Comme vous l'avez dit, on était confrontés à l'avis des générations supérieures qui nous disaient que finalement, on avait bien de la chance d'être étudiantes. Mmh. Et ça ne correspondait pas forcément à ce que nous, on vivait, même s'il y a eu des très bons moments.
Oui.
Et puis, étant étudiante aussi en psychologie, beaucoup de personnes s'adressaient à nous pour nous demander où est-ce qu'ils pouvaient consulter un psychologue, et qu'on était bien démunis finalement pour les orienter vers un lieu d'accueil.
Et pourtant, il y a des services de médecine de prévention universitaire. Alors, qui existent.
Effectivement, mais qui sont réservés essentiellement aux étudiants des universités, ce qui laisse quand même 40% des étudiants d'écoles privées hors de ce système.
Oui.
Voilà,
Les prépas aussi.
Les prépas, oui.
Voilà, donc on a essayé de se renseigner. Étant étudiante, on n'avait pas trouvé beaucoup d'informations. Il y avait la maison des adolescents, mais les étudiants ne s'y reconnaissaient pas forcément dans cette identité-là. Donc, on s'est aussi plongé sur la littérature dans notre domaine pour savoir si vraiment il y avait un besoin auprès des étudiants. On a effectivement remarqué que c'était quand même une période un peu charnière où il y avait des difficultés qui pouvaient émerger, et finalement, peu de structures pouvant répondre de façon très spécifique à cette population qui a des besoins bien particuliers.
Voilà, donc en 2010, vous avez donc lancé Apsitude. Comment est-ce que vous intervenez? Vous avez deux grands axes, je crois. Je vous fais sourire, hein. Laurentine, j'arrive pas à prononcer Apsitude.
Rajoutez pas T, vous compliquez pas la vie.
Comment est-ce que vous intervenez? Vous avez deux grands axes, en fait.
Voilà, on a deux grands axes, donc vraiment le côté prévention primaire qui se décline avec les forums de sensibilisation, les interventions de prévention sur des petits groupes d'étudiants, et puis un côté plus prévention secondaire avec tout ce qui est accueil individuel dans nos PEPS, les points écoute psychologique du supérieur.
Le PEPS, hein, c'est comme
le
ça
PEPS.
Que vous l'appelez. Pour garder la frite, c'est le
Exactement.
PEPS.
Exactement, hein, voilà. C'est bien l'idée.
Écoute et consultation donc individuelle. Alors, il faut préciser que vous n'êtes pas toute seule pour mener ces actions. Vous êtes toute une équipe, Fanny.
Voilà. Cette année, nous avons 10 psychologues à nos côtés, puisque nous intervenons sur 11 lieux d'accueil avec 50 heures de consultation par semaine.
Alors, on va revenir sur ces temps de rencontre et d'accompagnement. Quelles sont les raisons pour lesquelles on vient vous voir aujourd'hui en consultation, justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre? On en parle dans quelques secondes, juste après ce témoignage.
Bonjour Laura.
Bonjour.
Allez-y, installez-vous.
Merci.
Alors, comment allez-vous?
Écoutez, aujourd'hui, ça va pas trop mal. Je voulais m'adresser à des psychologues et je savais pas trop qui contacter parce que je connaissais pas de psychologue sur Lyon. Donc c'est vrai qu'Apsitude, ça m'a permis de pouvoir rencontrer Laurentine Véron et du coup d'entamer un suivi psychologique. Ça m'a beaucoup aidée et ça m'a permis de faire le point sur plusieurs situations et puis de trouver aussi une oreille bienveillante et de trouver quelqu'un qui puisse m'écouter.
Un témoignage de Laura que vous suivez, hein, je crois, Valentine, en consultation depuis 3 ans à raison d'une séance par semaine et pour qui justement ces rencontres font beaucoup de bien. Alors on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on vient vous voir, quelles sont les souffrances, les causes de mal-être qui reviennent le plus souvent, Fanny?
Alors, il y a différentes choses. Le plus souvent, il y a quand même un souci au niveau de l'estime de soi. Voilà, la confiance en soi, avec tous ces changements qui interviennent durant la vie étudiante, les étudiants n'ont plus trop de repères, ils perdent confiance, ce qui peut avoir une conséquence aussi sur leur vie relationnelle. Souvent, ils ont beaucoup de questions, comment on rencontre d'autres gens, comment on se fait des amis.
Et pourtant, dans les facs, hein, c'est pas les gens qui manquent, hein, les étudiants.
Effectivement, mais ça demande des compétences particulières et c'est pas si simple pour eux de savoir... d'avoir le mode d'emploi.
C'est vrai que c'est difficile, hein. On part d'un lycée ou d'un petit village dans lequel on était coucouné, et puis là, on arrive dans un amphi où il y a 600 têtes qui vous regardent, et c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de perte d'identité. Je ne sais pas, est-ce que je me trompe ?
Il y a beaucoup d'isolement, ça c'est un constat qui est fréquent. On voit même aussi au sein des résidences universitaires où c'est un facteur important de détresse chez les étudiants. Ils sont isolés. Ils sont 600, mais tout seuls au milieu.
Perte de confiance en soi, notamment pendant les examens. Est-ce que j'ai bien fait de suivre cette filière ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça revient, ça aussi ?
Voilà, effectivement, beaucoup de doutes sur les choix, remise en question de ces choix, avec aussi parfois la pression familiale, la peur de décevoir les parents, mais c'est aussi une pression qu'ils se mettent eux-mêmes, les étudiants.
Ouais, voilà. Sur le propre bourreau, finalement.
Voilà.
Il y a aussi les addictions, il faut en parler. Alors, c'est sûrement une conséquence de ce mal-être, tout ce qui concerne l'alcool, le cannabis, voire même, quand on préparait cet entretien, on m'a dit Internet de plus en plus, Laurentine.
Internet, téléphone, les nouvelles technologies, hein. Je pense que c'est pas un scoop non plus, mais chez les étudiants, ça fait quand même quelques ravages. Et puis, ça a des conséquences aussi sur des choses comme le sommeil, qui peuvent du coup entraîner de la détresse. Enfin, c'est un espèce de cercle vicieux présent. Sans même parler d'addiction, on va dire qu'il y a quand même des comportements néfastes.
Ouais. Est-ce que les étudiants viennent vous voir spontanément parce qu'ils ont entendu parler de vous, ou ils sont poussés par d'autres, ou ça a une longue maturation avant d'oser venir vous voir, Fanny ?
Alors, il y a plusieurs situations différentes. Maintenant qu'on commence à être implanté sur le territoire lyonnais, de plus en plus, les étudiants nous connaissent, nous repèrent. Ça vient aussi des interventions, des forums qu'on fait. Ils entendent parler de nous. Le bouche à oreille commence à fonctionner de plus en plus. Souvent, ils arrivent spontanément. Ils savent bien pourquoi ils s'adressent à nous. Ils se trompent pas d'endroit, ils se trompent pas de demande.
Bah, tant mieux, hein.
Voilà.
Autant qu'à faire.
Quelquefois, ils nous sont orientés par les centres médico-psychologiques ou les médecines préventives qui sont surchargées, qui nous renvoient aussi à les étudiants.
Alors, Laurentine, en quoi consiste votre travail d'accompagnement ? Il faut préciser que vous n'êtes pas psychiatre, vous n'êtes pas médecin, vous êtes psychologue, hein, donc c'est-à-dire que vous ne délivrez pas de médicaments. Mais quel est votre rôle ?
Alors, au sein de CEPEP, c'est assez particulier. On ne fait pas de la thérapie. Hein. L'idée, c'est vraiment d'essayer de remobiliser les ressources de l'étudiant, d'en développer de nouvelles pour qu'il puisse traverser la période qui est difficile, ne pas décrocher et puis repartir. Donc, tout n'est pas réglé quand ils sortent de nos lieux d'accueil, mais ils sont remobilisés, ils peuvent continuer.
C'est-à-dire que vous les écoutez, vous les orientez éventuellement, si vous sentez qu'il y a vraiment besoin d'un gros soutien psychologique.
Oui, ça peut être, peut y avoir une orientation complémentaire ou en plus de ce qu'on fait ou différemment, bien sûr.
Ce qu'il faut dire, c'est que les étudiants, quand on leur dit quelque chose, quand on leur apporte un soutien, ils captent très vite un tas d'informations. Ils arrivent très vite à modifier des choses dans leur fonctionnement. L'idée, c'est comme un peu une grosse boîte à outils et on leur donne des outils supplémentaires. Voilà, pour faire...
Et puis rien que le fait, j'imagine, de trouver quelqu'un qui écoute, hein, c'est déjà pas mal.
Oui.
C'est déjà un premier point dans un univers qui est assez anonyme. Combien coûtent les consultations ? Je crois que vous avez un prix imbattable, hein, Laurentine.
C'est-à-dire que ce n'est pas un prix, en fait. Hein. On a des partenariats qui nous permettent que ce soit complètement pris en charge. Et pour les étudiants qui seraient hors partenariat, on a quand même des accueils pour pouvoir les accueillir. Et à ce moment-là, c'est 10 euros par entretien. Et encore, même s'ils n'ont pas les moyens, ils peuvent monter un dossier pour que ce soit complètement pris en charge. Donc, c'est maximum 10 euros.
Combien d'étudiants accueillis depuis vos débuts, Fanny ?
Alors, depuis le début de l'association, je ne pourrais pas vous dire, mais là, pour vous donner un chiffre, depuis le mois d'octobre, on a reçu plus de 130 étudiants.
Donc, ça montre vraiment qu'il y a un besoin, hein, que votre structure est bien là pour ça. On se retrouve dans quelques secondes.
Ça va mieux en le disant, l'invité.
Et nos invités, elles sont deux, Fanny Sauvade et Laurentine Véron, psychologues, créatrices donc d'Aptitude, bravo je l'ai dit, association d'écoute et d'accompagnement pour les étudiants. Alors vos projets pour 2014, je crois que vous avez envisagé de créer une antenne à Paris, hein, dans le 6e arrondissement, parce que pour l'instant vous n'êtes basé qu'à Lyon. Et puis également mettre au point une méthode de prévention, mais par les étudiants et pour les étudiants. Ce que vous appelez le porte-à-porte, Fanny, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi ça consiste ?
Alors effectivement, c'est un programme de prévention pilote et innovant. qui consiste à aller dans les résidences du CROUS et d'aller frapper aux portes des étudiants, voilà, pour leur délivrer un message de prévention, leur dire que s'ils ne vont pas bien, ils peuvent aller consulter, voilà, que ça peut être à la portée de tout le monde. Et ce sont des étudiants en psychologie qui vont frapper à la porte des étudiants, parce qu'on se rend compte que quand le message passe par des pairs, il passe beaucoup mieux.
C'est un peu comme la sécurité routière, hein, il vaut mieux passer des messages qui sont adaptés aux jeunes plutôt que qui viennent d'en haut, hein, c'est ce que
voilà.
vous voulez nous dire.
Ouais. Exactement, ça permet aussi de créer du lien social entre jeunes.
Alors, Apsitude, donc 3 ans d'existence, et puis une structure qui a été encouragée par les pouvoirs publics. Vous avez reçu récemment de la mairie de Lyon 2000 euros. J'allais presque dire, c'est presque une goutte d'eau, hein, parce que vous avez un budget qui est beaucoup plus conséquent, Laurentine.
Oui, mais toutes les gouttes d'eau permettent de faire l'océan.
Oui, c'est-à-dire voilà. que ça vous permet quand même de fonctionner.
Oui, c'est-à-dire qu'après, les budgets sont répartis par action. Et par exemple, ce qui nous a été donné par la ville de Lyon est sur les PEPS qui ne sont pas du tout aidés. Donc pour nous, c'est une grande aide, en fait, ces 2000 euros. Et je dois même rajouter qu'on a eu aussi 5000 euros du CCAS de la ville de Lyon aussi. Donc,
donc ça vous permet de tenir donc, pour votre fonctionnement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir une fois puis qui ne reviennent plus? Est-ce que ça vous arrive souvent?
Ce n'est pas la majorité. Généralement, il y a un lien
tant
qui
mieux,
se crée.
Tant mieux, parce que si ça se trouve, ils ont justement trouvé ce qu'ils voulaient, vous avez su les écouter, ils n'ont plus besoin de revenir.
Oui, effectivement, les temps d'accueil sont très variables. Ça nous arrive qu'il y ait des fois en deux, voilà, une ou deux séances, ça permet déjà de poser les choses, de souffler et prendre du recul sur une situation. Certaines personnes ont besoin d'accompagnement plus long, mais c'est vraiment très variable. On a une moyenne de 5 entretiens par étudiant.
Voilà. En tout cas, on peut vous retrouver dans différents points rencontres, hein, à la mairie du 6e pour ceux qui habitent Lyon, et puis également au CROUS, je crois. Voilà. Oui. Et puis, vous avez différents points où on peut se renseigner pour vous rencontrer. On peut donner le site internet de votre association. Je vous laisse prononcer parce que je ne sais pas si je vais y arriver.
www.apsitude.com.
Voilà, www, je me lance, apsitude, voilà, bravo.com, où on pourra donc mieux découvrir votre activité et puis également les points de rencontre où on pourra vous rencontrer. Merci de nous avoir présenté votre structure. Toute dernière question, est-ce que vous gardez un bon souvenir de vos années d'études?
Très
C'était
bon.
Pas trop déprimant pour des psychologues?
quand on est à distance, ça paraît toujours plus beau, donc de très bons souvenirs.
Oui. On n'a pas arrêté, on est encore sur les bancs de l'école. Hein.
Une manière de rester jeune aussi. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir et on va se quitter avec Gérald Gentil, détention universitaire, mais rassurez-vous, c'est de l'humour.
Je suis en détention universitaire, 9 mètres carrés pour me déplaire, et sur mon lit étroit, quand vient le soir, j'ai le silence comme un espoir. 605 colocataires, on est un peu comme des pommes de terre, on partage de près la même terre. J'entends si tu te grattes, tu entends le si de ma gratte. On se dit bonjour,
salut,
bonsoir, quand on se croise dans le couloir. Souvent quand je vais aux toilettes, y'a déjà quelqu'un en train
s'occuper.
Dans nos cellules, pas d'isolation, on pourrait discuter par mur interposé, poser une question aux voisins du fond. Entendre la réponse qui descend du plafond. J'ai un petit bureau plus un petit lavabo, une prise de courant et un rideau. Il n'y a rien en double par manque de place, à part peut-être moi dans la glace. On se dit bonjour.
Salut,
ça va?
Bonsoir.
Quand on se croise. Voilà,
plutôt animé la vie en CTU. C'était détention universitaire avec Gérald Gentil qui depuis a dû obtenir sa libération conditionnelle. Vous êtes toujours à l'écoute de RCF. Ça va mieux en le disant. Suite et en avant la musique. C'est demain que s'ouvriront les folles journées de Nantes. Le grand rendez-vous de la musique dite classique. Pour cette 20e édition, eh bien, ce seront les rythmes américains qui seront à l'honneur. Du canyon aux étoiles. C'est le thème de cette édition. Du jazz blues aux comédies musicales en passant par les films hollywoodiens ou les négros spirituals. Il y en aura pour tous les goûts. Mais au-delà de son fidèle public de mélomanes, ce festival se tourne de plus en plus vers des publics qui n'ont pas accès habituellement aux salles de concert. Comment ? Écoutez Michèle Guillassou, c'est la directrice générale de la Folle Journée. Elle est jointe au téléphone par Jean-Michel Bardet de RCF Besançon.
Nos objectifs, c'est de faire en sorte que ces nouveaux publics se sentent à l'aise en venant ici partager ce grand événement. Et pour ce faire, effectivement, nous développons à l'année une politique sociale, solidaire, de la médiation culturelle, des campagnes de sensibilisation qui prennent des formes assez inédites. Et nous tenons beaucoup à ce registre.
Alors justement, les formes inédites, ça représente quoi alors ?
Eh bien, prenons un exemple pour les détenus. Ils ont pendant 2-3 mois une préparation très musicale avec une petite pièce de théâtre que nous donnons par ailleurs dans les établissements scolaires. Ils ont aussi l'écoute de concerts vivants. Prenons les jeunes des quartiers qui pratiquent la musique amateur. Depuis 3 mois, ils se préparent à un très grand concert de retranscription qu'ils vont donner dans un cadre d'atelier de retranscription et ils vont venir. Ils font partie de la programmation. Alors vous voyez, c'est quelque chose que nous avons innové il y a une dizaine d'années, qui fonctionne très bien. Et puis à côté de cela, il y a de la médiation culturelle en direction des publics précaires, qui ces publics ne viendraient pas, même si on donnait une place gratuite. Donc ce n'est pas nous du tout notre démarche, c'est que nous sommes allés les chercher par le biais de ce qui pouvait les intéresser. Pour certains, c'est l'intégration sociale par le travail. Mmh. Donc nous encadrons des jeunes, par exemple, qui sont de l'école de la deuxième chance. Nous leur confions des missions pour promouvoir la folle journée auprès du monde des commerces. Cette semaine, ils ont fait leur relance téléphonique. Et nous savons que, mais grâce aussi à cette démarche, certains d'abord ont trouvé un stage. D'autres m'ont dit, ah ben ça y est, maintenant au téléphone, je me débrouille bien parce que j'avais autre chose à promouvoir que moi-même pour un stage ou pour une démarche d'emploi. Donc si vous voulez, ça peut dépasser le cadre festif, et c'est d'ailleurs cela qui nous intéresse, c'est rebondir sur un contexte favorable et un rayonnement d'événements pour donner des outils à des gens qui en ont besoin.
Donc voilà, c'est ces deux registres nécessaires de ce type de manifestation.
Absolument.
Si on veut que... elle devienne majeure, parce que finalement c'est ça, c'est la majorité actuellement.
Oui, oui, elle est majeure dans le cœur des Nantais et nous voulons que même ceux qui ne le soupçonnent pas en aient un petit peu de folle journée. Vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez. Je vais
Bien
prendre
sûr.
Un autre exemple, les personnes souffrant d'Alzheimer dans les EHPAD. Nous avons conduit une très belle opération l'année dernière que nous allons reconduire en leur donnant 3 séances d'éveil musical. Mais cet éveil musical, c'était le réveil musical pour eux, parce que... Ils avaient connu tout cela auparavant. Malheureusement, la mémoire et les troubles neurologiques ne permettent pas de le retrouver. En revanche, comme le dit Jean-Claude Ameisen, la musique est un formidable outil thérapeutique et surtout qui apporte du plaisir à des gens à qui on n'est pas malheureusement coutumier d'en apporter dans le registre culturel. Donc nous avons conduit cette opération qui a été tellement bénéfique. Je suis allée à la 3e séance pour en vérifier la pertinence, que les animateurs des EHPAD vont avoir eux-mêmes ou elles-mêmes, les animatrices, une formation pour pouvoir continuer à l'année cet éveil musical. Et ça, c'est quelque chose qui nous porte, voyez, dans notre démarche du regard vers l'autre et du partage de ce grand événement, ce grand festival qui est la folle journée.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
I got rhythm, I got music, I got my man, you can ask for anything more. I got daisies in green pastures.
I Got Rhythm de Gershwin, l'un des compositeurs à l'honneur pour cette folle journée de Nantes, un événement donc que vous pourrez suivre aussi sur RCF avec à partir de 14h jusqu'à 15h15 un spécial Échappée Belle en musique avec Renaud Vol en direct de Nantes et puis un peu plus tôt à 9h30 un spécial Le Temps de le dire animé par Stéphanie Gallet sur le thème La musique adoucit-elle les mœurs. Stéphanie Gallet qu'on va d'ailleurs retrouver tout de suite pour ses classes, le rendez-vous des initiatives de l'enseignement catholique, suite et fin aujourd'hui de notre dossier sur l'aménagement des rythmes scolaires. Comment est-il perçu dans les établissements scolaires? Quelles solutions ont déjà été mises en place pour le bien-être des élèves? Illustration cette fois-ci dans l'Ain.
Ces classes à l'école de la liberté avec l'enseignement catholique.
Mireille Besser, bonjour. Vous êtes responsable de l'établissement La Sidoine, c'est à Trévoux, dans l'Ain, c'est une école maternelle et primaire. Avec vous aujourd'hui, on continue à parler de l'aménagement des rythmes scolaires. Or, vous, dans votre école, eh bien, vous êtes Depuis 2008, vous êtes resté en fait aux 4 jours et demi. Il y a école le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et ça se passe bien ?
Ça se passe bien. Nous avons évalué notre dispositif l'année dernière.
Vous pouvez nous raconter comment se découpe une journée ?
Alors, le lundi et le vendredi, donc le matin, l'accueil est à 7h45 jusqu'à 8h30. À 8h30, les enfants entrent en classe jusqu'à 11h30. Ensuite, à 11h30, ils vont prendre leur repas jusqu'à midi, midi 15. Ensuite, il y a le temps de la pause méridienne et ils reprennent à 13h15 jusqu'à 15h35. À 15h35, il y a quelques enfants qui rentrent chez eux, parce qu'ils peuvent tout à fait rentrer chez eux. D'autres partent en activité de 15h35 jusqu'à 16h30.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers ?
En ce moment, nous avons du cirque pour les maternelles, nous avons de la danse classique, de la sophrologie, nous avons du karaté aussi, des jeux de cartes, nous avons art visuel, dessin, de la cuisine. Il y a également un atelier théâtre et du rugby. Donc on a aussi bien du sportif, on a voulu mettre des activités sportives que des activités culturelles.
Qu'est-ce qui a été compliqué dans l'aménagement de cette organisation ?
L'espace, parce qu'effectivement une activité, elle est seulement pour une dizaine d'enfants, voire 12. Et donc il faut démultiplier les lieux, les espaces, et ça on l'a pas toujours. Ensuite, c'est toute une organisation, donc dès qu'il y a un absent, ça complique tout de suite. Il faut aussi que les enfants soient suffisamment autonomes pour qu'ils puissent se rendre dans les différentes activités, dans les différents lieux. Il faut qu'il y ait un coordinateur de tout ça, parce que sinon ça peut pas fonctionner. Il faut également de l'argent. Et ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est quelque chose qui tous les jours est là où il faut le réajuster. Pour que ça vive, il faut vraiment que l'on puisse l'ajuster régulièrement.
Mais au final, c'est vraiment une bonne chose.
Pour les maternelles, c'est pas adapté. On voulait changer l'année dernière pour les maternelles, mais c'est très compliqué d'avoir plusieurs horaires parce que y a des frères et sœurs, parce qu'on couperait l'équipe également. Mais pour les maternelles, c'est lourd, mais c'est pas adapté à leur rythme, malheureusement. Pour nous, c'est un projet qui est vraiment intéressant. Il faut vraiment réfléchir le projet dans sa globalité. Si on voit l'ensemble vraiment sur le temps de l'année, sur le temps de la semaine, ça devient intéressant parce que les enfants s'y retrouvent vraiment. Et je vois les enseignants également, ils apprécient le soir de partir à 15h30. Et de faire les apprentissages fondamentaux le matin.
C'était la chronique C'est classe, avec le soutien de 1001 Repas, entreprise de gastronomie collective, partenaire de l'enseignement catholique.
Voilà, c'est classe à retrouver tous les mercredis dans Ça va mieux en le disant. Avant de se quitter, eh bien, on va se prendre notre petit verre de bonheur hebdomadaire, un petit texte poétique que vous avez envie de nous faire partager. Pour ça, c'est facile, vous appelez au 04 72 32 00 22 et vous enregistrez. Aujourd'hui, c'est Anne-Marie qui nous propose une petite histoire à la poursuite du bonheur.
Bonjour, voici une petite fable à la recherche du bonheur. Un homme cherchait en vain le bonheur. Il regardait autour de lui et comprit enfin que le bonheur était là, tout près. C'était une fleur. Il l'accueillit, mais à peine dans sa main, elle s'effeuilla et mourut. Puis ce fut un rayon de soleil qui apparut. L'homme leva les yeux pour en être réchauffé et éclairé, mais la lumière disparut aussitôt derrière un nuage. Ce jour-là, l'homme fut si triste qu'il pleura. Le lendemain, il sortit et continua à chercher le bonheur. Sur le chemin, il rencontra un enfant qui pleurait. Il voulut le consoler, cueillit une fleur et la lui donna. L'enfant sourit et le parfum de la fleur les embauma. Un autre jour, il croisa une pauvre femme qui grelottait dans ses haillons. Pris de compassion, il la conduisit au soleil et tous deux s'y réchauffèrent. Ce jour-là, cet homme souriait, heureux, car il avait trouvé le bonheur simplement et avec les autres. Voilà, à bientôt.
Un petit verre de bonheur.
Voilà, un petit verre de bonheur à déguster sans modération au 04 72 32 00 22.
«
Ça va mieux en le disant, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment demain avec pas mal de positifs dans notre panier. On vous emmènera à Montrésor, le plus petit village de Touraine, où milliers d'idées pour tisser du lien entre les habitants. On parlera aussi des petites buttes solidaires avec le festival de BD d'Angoulême qui redémarre demain, et puis également de vin bio puisque ça se développe de plus en plus. Derrière sa table de mixage, il a parfaitement piloté ses manettes, négocié les courbes des 8 mètres et manœuvré les potards. C'était Christophe Morague. Comment ça va, Christophe ?
Grosse montée d'adrénaline. Hein. Ça fait du bien de retrouver ces sensations.
Eh bien, bonne route, bonne journée à tous, et on n'oublie pas d'être heureux au moins jusqu'à quand ? Eh bien, jusqu'à demain.